Oh, quel paysage, mes enfants, c'est magnifique.
Oh, c'est vrai, puis en tout ce blanc de la neige, ça fait nickel, hein, c'est net.
Ça fait propre, ça fait propre.
Ouais, ouais. Et quand on pense à ce que c'est devenu la Méditerranée.
Oh, alors là, la mer, maintenant, c'est dégueulasse.
Ouais. C'est un vrai dépotoir, tu peux pas poser tes fesses sans t'asseoir sur une boîte à conserve.
CO2, mon amour.
Bah, ici, au moins, quand t'arrives, c'est propre.
Le problème, c'est quand tu repars.
Mais non, la neige, ça recouvre tout, alors ça reste immaculé.
Denis Chessou. Sur France Inter.
Mais ouais, et l'été, quand ça fond, qu'est-ce que tu fais?
L'été, tu vas pas ici, tu vas à la mer.
Ouais, mais la mer, c'est dégueulasse.
Ah, c'est vrai.
D'accord. Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, ce magazine de nature et d'environnement. Je vais vous emmener, en fait, on va avoir deux sujets, mais je vais vous emmener avec Lionel Daudet dans le pays des écrins, dans les Hautes-Alpes, respirer. Vous allez voir, cet homme-là est un alpiniste tout à fait inspiré. À la technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz, nous avons préparé l'émission avec Marion Philippe et Camille Blanès, et c'est Jérôme Boulet qui la réalise, avec l'aide aussi de Hélène Bisio. Et ça commence sous forme donc d'humeur de petite actualité. Allez, on va aller en Corse. Une petite victoire environnementale grâce à l'association Corse Ulevante. Je m'appelle Pierre Ferracci, je suis à la tête d'un beau groupe. J'édifie dans mon village natal deux petites villas de plus de 300 mètres carrés sur un terrain dominant une des plus belles anses d'Europe, non loin de Bonifacio. Ah, vous me dites que ma bétonneuse met les pieds dans un espace naturel remarquable, en principe inconstructible. Eh, on est en Corse, hein, je suis chez moi, et puis... Non, ça bouge. Les petits arrangements entre amis se font de moins en moins sous le couvert d'une justice de clientèle débordée, parfois complice, et ce, même en Corse, où les insulaires eux-mêmes laissent passer de moins en moins de choses, donc c'est une bonne nouvelle. La cour d'appel de Bastia a condamné le bâtisseur à régler 1 million d'euros d'amende, c'était en juillet 2017, et là, le 19 mars, la Cour de cassation casse aussi à grands coups de marteau-piqueur l'autorisation de garder ces villas. Et là, un autre procès aura lieu pour juger de la démolition ou non. Alors je résume à grands traits, hein, comme d'habitude. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est riche et qu'on connaît le président que cela donne le droit de bousiller un coin de nature supplémentaire en toute impunité. Et donc c'est une victoire opiniâtre de l'association Ulevante, à qui M. Ferrari peut-être ne devrait pas renouveler sa cotisation en 2019. Et les cétacés et les aigles pêcheurs de la superbe réserve classée de Scandola. Cette fois-ci, on est au sud de Calvi. Mais ils aimeraient bien qu'on les oublie un peu, qu'on régule les bateaux qui empêchent le balbuzard de vivre dans le silence. Surpopulation, joyaux en perdition. Donc, qu'on ne prenne pas leur territoire sacré pour un lunaparc à selfies et à touristes. Stop, parce que sinon, moi, je m'envole définitivement. Autre information, alors je sais, hein, attention, pas d'amalgame entre ce que je vais vous dire et une politique environnementale, gouvernementale, novatrice, fer de lance sur le climat saluée par l'ONU. Ça s'est passé vendredi dernier à l'Assemblée nationale où il semble qu'on a encore pas mal de temps pour quand même sauver la planète. Deux joyeux pesticides cancérigènes, mutagènes, etc. sont interdits en Union européenne, mais pas dans des pays plus pauvres, à la réglementation beaucoup plus cool. Une sorte de Vietnam pesticidé, ça c'est pour les autres. Et nous, eh ben, on les fabrique, ces saloperies qui feraient perdre les cheveux à tous les hérissons, les enfants, les lombrics de la terre. Et alors on a voté au nom de l'emploi et aussi grâce au lobbying des faiseurs de biens qu'est l'Union des industries de protection des plantes, mais peut-être pas la protection toujours de la santé. On a donc repoussé la fabrication de 2022 à 2025 de ces pesticides donc chez nous. Sinon, bah, d'autres boîtes continueront à produire leur chaudron du diable dans un autre pays. Alors qu'on se prenne en boomerang ces cochonneries quand elles reviendront dans nos assiettes, ça c'est pas exactement dans les éléments de langage. Alors qu'il y avait 37 députés présents à ce vote, dont 20 en marche, résultat des courses aux molécules tueuses, 27 pour, 3 contre et 7 abstentions. Mais attention, on est content, c'est un bon compromis avec le Sénat qui est très chimie et qui avait tout balancé aux orties, et donc cela clarifie les choses. Surtout que vous avez quand même un petit alinéa avec des dérogations possibles de continuer à fabriquer cette soupe après 2025. Et ce vote donc a défait partiellement ce que l'Assemblée nationale a elle-même voté il y a 5 mois. C'est ce que rappelle Barbara Pompili qui a résisté comme elle a pu. Brune Poirson, donc récente vice-présidente de l'ONU Environnement, a déploré aussi ce vote. Mais sans décision radicale, rappelait donc l'habitant Guy Pastoureau, tout ce qui est amoral continuera à générer des jobs de pollueurs dans ce domaine et bien d'autres. Et alors ce vote, me direz-vous, il a lieu quand? Eh ben en fait, juste avant la semaine sans pesticides, avec comme slogan « Zéro pesticide, c'est mille fois mieux pour ma santé et la planète ». Comment ? Ah, c'était juste pour les jardiniers amateurs. Ouais, mais quand même, le sens du timing, hein, on dira ce qu'on voudra, c'est un métier. Et sinon, autre mini-actu, mais très importante, le printemps. Eh bien, le printemps, il est arrivé officiellement cette semaine. Alors, reconnaissons qu'il avait quand même tenté une OPA, comme on dit, inamicale. Quand on dit ça, c'est plutôt chez les tueurs de Wall Street sur l'hiver, en nous faisant ressortir nos t-shirts made in Bangladesh avant l'heure. Alors là aussi, ils ont trouvé un compromis. Hein. L'hiver, il a dit, bon, tu me laisses encore un peu opérer en montagne au-dessus de 1700 mètres, et toi, le printemps, tu fais le boulot en bas, et comme ça, les jonquilles, elles seront bien gardées. Et avant de partir justement à la montagne, bonjour Hugo Viel.
Bonjour.
Alors vous avez 20 ans, vous êtes avec nous pour cette actualité, vous êtes en quatrième année d'école d'ingénieur, l'ECE de Paris, vous faites partie de la coordination nationale Youth Climate France, autrement dit la jeunesse, collectif jeune pacte finance climat que l'on doit à Pierre Larotet Jean Jouzel, d'ailleurs qui a inspiré le président de la République. Après on va voir ce qu'il va en faire de cette affaire-là. Secrétaire général aussi de ONG Climate. Alors l'environnement chez vous, c'est pas un héritage familial. Vous êtes végétarien depuis 2 ans, ça fait 1 mois que vous n'allez plus donc à l'école. Vous avez le soutien de toute votre équipe pédagogique hein, qui a accepté que vous repassiez vos examens plus tard. Vous l'avez déjà dit, mais vous souhaitez, lorsque vous étiez môme, devenir astrophysicien. Mais avant d'exporter les problèmes de la Terre vers les étoiles, il faut peut-être commencer à s'occuper de la Terre. Mais ingénieur, ça, vous avez envie, vous Hugo, donc de continuer cette affaire-là?
Ouais, bien sûr. Je me suis posé la question de savoir si j'allais continuer l'école d'ingénieur, etc. Parce que à un moment, je voulais faire une école de journalisme. Mais au final, je voulais bosser dans l'environnement, dans les énergies, etc. Et quoi de mieux de savoir comment ça fonctionne avant d'en parler. Ouais. Donc ça me donne la légitimité d'en parler, en fait, puisque c'est ce que j'ai étudié.
Alors c'est toujours bon de rappeler que c'est cette affaire-là, hein, ces différentes manifestations n'ont strictement rien à voir avec 1968.
Ouais, en effet, on m'a beaucoup fait la remarque de dire « Ouais, est-ce que c'est pas un nouveau 68, etc. » Moi, je suis pas du tout d'accord. En 68, on dit que c'était les enfants contre les parents. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est déjà, on voit que c'est 68, c'était en France. Là, c'est une mobilisation planétaire, vraiment. Il y avait plus de 123 pays dans le monde entier le 15 mars. Il y avait des millions de personnes, des millions de jeunes qui sont mobilisés. En France, on a vu qu'il y avait des centaines de milliers de personnes aussi le 16 mars. Donc, je veux dire, c'est pas du tout comparable à ce qui s'est fait avant. Et on est vraiment dans un mouvement. C'est même plus juste une mobilisation. C'est vraiment une demande de changement global du fonctionnement de la société, en fait. Et aujourd'hui, la principale critique qu'on fait, c'est que il n'y a pas de réflexion engagée justement sur ce modèle de société. Ce modèle de société où on s'intéresse plus à avoir toujours plus chez soi, à consommer toujours plus.
C'est ça.
Et on s'intéresse plus aux valeurs, vraiment aux valeurs humaines, aux valeurs qui nous lient les uns aux autres. Et je pense qu'aujourd'hui...
C'est-à-dire en gros tout ce qui ne rentre pas dans le PIB. Hein.
Exactement. Aujourd'hui, on préfère avoir un PIB qui monte plutôt qu'un BIB, un bonheur intérieur brut.
Et oui.
Et c'est vrai que aujourd'hui, notre génération, enfin, je parle pour moi, mais pour beaucoup d'autres personnes derrière.
Si vous êtes un peu représentant quand même.
Bien sûr. Mais on a des valeurs hein, qu'on a développées en grandissant, qu'on n'arrive pas aujourd'hui à mettre en place dans la société, dans le système actuel. On ne nous donne pas les moyens de le mettre en place.
Alors, quelles seraient les pistes pour vous? On peut avoir de la désobéissance civile, on peut faire peut-être du lobbying aussi par rapport aux institutions. Par quoi on commence?
Par quoi on commence,
c'est compliqué.
Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Tout, il n'y a pas de. Faut utiliser tous les moyens possibles. Aujourd'hui, il y a urgence. Si on regarde le dernier rapport du GIEC,
il est pas bon.
Hein. Il est pas bon du tout. On sait que, par exemple, si on a atteint un réchauffement à 1,5 degré,
non, mais donc,
ce qu'on nous conseille déjà.
On ne le dit plus.
Même là, ok, à 2 degrés, voilà. On augmente les fréquences de chaleur extrême de x4 en fait. Donc, pareil, sur la population exposée à la rareté de l'eau, ça monte jusqu'à 400 millions de personnes exposées à la rareté de l'eau.
Vous le savez, Hugo, c'est-à-dire que les gens sont... globalement, oui, ils disent ça, puis après, ils sont relativement peu sensibles aux chiffres. En revanche, ils sont sensibles aux histoires humaines.
Exactement, et je pense que aujourd'hui, la meilleure façon de montrer aux gens que ça impacte tout le monde... c'est de savoir comment, dans notre vie de tous les jours, on est impacté. On peut parler de l'alimentation, là vous parliez des pesticides, etc. C'est exactement ça, ça nous touche énormément. Et si on n'arrive pas à repenser la façon dont on se nourrit, si on n'arrive pas à repenser la façon dont on vit, eh ben, ça nous dessert totalement en fait, parce que l'obésité ça a tout à voir avec avec le tout fait, etc. Et il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours au niveau de la santé, de la pollution, etc. qui nous touchent.
Comment remettre en mouvement de l'intelligence collective alors qu'on a séparé les individus, moi-je parce que je le vaux bien, donc etc. C'est par même pas là que ça se passe.
Ouais, et je pense que aujourd'hui on le voit bien dans toutes les mobilisations qu'on a. On essaie justement de faire fonctionner cette intelligence collective. Quand on regarde sur la mobilisation parisienne, par exemple, c'est tous ensemble, c'est en AG qu'on réfléchit. On essaye vraiment de faire parler le maximum de personnes, de faire interagir, qu'on soit tous ensemble à réfléchir à ça. Et aujourd'hui, on est dans un système politique, je pense, où on attend trop souvent qu'il y ait une personne ou quelques personnes qui prennent le lead. Et nous, derrière, on doit suivre. Mais je pense que les gens aujourd'hui, et on peut faire le lien avec le mouvement des Gilets jaunes et avec tous les mouvements actuels, en fait, c'est on veut avoir de l'impact sur la société dans laquelle on vit, on veut la façonner à notre image. Et c'est juste en recréant du lien entre nous, en réfléchissant tous ensemble et en faisant jouer l'intelligence collective.
Et en ne disant pas donc en permanence, vous êtes des jeunes, occupez-vous d'abord de votre comportement, etc. Vous êtes des petits consommateurs. Non, vous êtes aussi des citoyens tout à fait engagés. Merci pour cette parole, on y tenait
merci
vraiment.
Donc, merci beaucoup.
Hugo Vielle, on essaiera de faire mieux donc la prochaine fois. Mais là, je vais vous emmener, vous allez voir, en prendre de l'air, en prendre de la hauteur, on va aller dans les écrins. Oui, vous allez voir ça.
Hey!
Ah bah oui, battez-vous, on a tous besoin d'amour, ils l'ont dit, mais bien sûr qu'on en a besoin. Et là, donc c'était les Brigitte, battez-vous. Bah et alors qu'est-ce que l'on fait, hein? L'environnement est un sport de combat, c'est formidable.
C'est à toi ça, hein? T'es pas dans une décharge ici, vieux. T'es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, c'est pas de déposer tes crasses un peu partout.
C'est au de mon amour.
Bon alors écoutez-moi bien, on va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs, ok?
Denis Chessou.
Bon, contrat?
Contrat?
J'ai pas entendu.
Contrat?
Sur France Inter.
Tu refais ça, je te pète la gueule.
D'accord, donc c'est contrat, il n'y a pas de problème. Allez, respirez, là c'est notre balade enchantée, vous allez comprendre pourquoi avec Lionel Daudet, nous partons dans le pays des écrins.
Comme vous l'avez compris, il y a un peu de cailloux pour rejoindre Lionel Daudet chez lui. Bonjour Lionel.
Bonjour Denis.
Ah là là, qu'est-ce qu'on est bien là, parce que on se retourne, alors on est chez vous, dans ce pays des écrins, dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, avec l'Argentière qui est à nos pieds. Ce pays des écrins, il englobe quoi? Parce qu'on est déjà dans le Briançonnais, non? C'est un peu différent.
Alors effectivement, le pays des écrins, c'est un peu ce pays qui est bordé à l'ouest par le massif des écrins, avec ouais. Le dernier 4000 des Alpes, donc des hautes montagnes, la barre des écrins. Et puis à l'est, bah, on se rapproche doucement de l'Italie et on est parcouru au milieu par la vallée de la Durance qui va se jeter dans le Rhône à quelques centaines de kilomètres d'ici. Quoi.
Donc on a Saint-Crépin, la Roche de Rame, l'Argentière.
L'Argentière, Briançon quand on part au nord. Et puis après, bah voilà, on arrive finalement dans une espèce d'endroit qui est fermé par la montagne, puisque pour s'évader par le nord du pays des écrins, et bah, il va falloir forcément emprunter un grand col, que ce soit le col du Lautaret, le col du Galibier, le col du Mont-Genèvre, qui sont des cols bien connus des cyclistes.
Et puis dans ce pays des écrins, on peut rajouter Pellevoux, Ailefroid, depuis Saint-Vincent, Chambsella, etc. Alors donc, Lionel Daudet, l'auteur de ce livre Le Tour de France exactement, est en fait originaire du Maine-et-Loire. C'est un homme du Tuffeau, des bords de Loire. Et puis comme il était amateur de cascades de glace, bah, il est venu dans ce spot mondial qui est ce vallon donc des têtes dans le massif des écrins. Et avec cette philosophie du wilderness, c'est-à-dire la nature sur laquelle l'homme n'est pas intervenu, en tout cas à peine. Il a besoin de faire une marche d'approche pour réfléchir. Et là, cet homme qui a gravi donc plein de parois mondiales complètement folles, il nous emmène au sommet de la montagne des Têtes. C'est son lieu, c'est sa montagne tutélaire perso, et là, on y va.
Voilà, c'est vrai que les Têtes, c'est un peu juste au-dessus de chez moi, c'est un peu mon jardin, c'est un peu le donjon de mon château en quelque sorte, puisque ouais. Il y a toujours ce côté d'évasion qui est assez fabuleux dans le pays des écrins et qui me tient à cœur. C'est-à-dire que voilà, je quitte le village, j'ouvre un peu cette porte et je me retrouve dans un univers qui pour moi est enchanteur, un univers de beauté, un univers où l'être humain retrouve sa capacité d'émerveillement, parce que là, voilà, on va voir au sommet des Têtes un panorama à 360 degrés et puis ce panorama qui marque finalement l'horizon d'une petite ligne blanche en ce moment, eh bien aussi ces crêtes quelque part, elles nous ramènent à notre univers intérieur. On prend de la hauteur, bah voilà, monter aux Têtes, arpenter ces sentiers, c'est pour moi une forme de méditation. C'est plus qu'important, c'est fondamental. Si finalement on prend un hélicoptère pour aller grimper une paroi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on voyait la montagne avec une lorgnette et on ne regardait que la paroi. Et pour moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était finalement la globalité, c'est-à-dire d'embrasser toute la montagne et la réalité du monde. Il y a un côté fondamental à, d'une part, approcher une montagne parce que effectivement il y a ce recentrement du lieu, de savoir où il est, de me dire que les populations qui vivent au pied sont peut-être aussi importantes à finalement à découvrir, et du coup la grimpe, l'alpinisme devient un vecteur de communication, ou après finalement traverser des glaciers, traverser des forêts inextricables, tout simplement parce que ça fait partie pour moi de l'ascension, et il m'est arrivé d'échouer dans des grandes parois à cause de la marche d'approche qui était extrêmement compliquée. La montagne aussi nous met le doigt sur notre fragilité. On oublie finalement le caractère éminemment fragile de l'être humain. Et on oublie le caractère miraculeux de la vie. Ouais. Et la montagne, finalement, pour ça, est une formidable donneuse de leçons, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mmh. Mais en même temps, c'est vraiment ça. Il y a cette leçon de finalement de ramener l'être humain à l'endroit où il devrait être. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas le dominateur.
Vous nous parlez d'écologie, là. Vraiment.
Ah, je sais pas. Après, ah bah si, vous mettez ça. Les mots que vous voulez. Ah bah. Moi, je vous parle avec les mots de l'alpiniste.
Ouais, mais c'est, ça vient à ça.
Et en tout cas, nous apprend que l'être humain et l'alpiniste, plus il va en montagne, plus il s'aguerrit, plus il est entraîné. On pourrait croire qu'il va jouer des gros bras et qu'il va finalement dominer la montagne. Non, c'est exactement le contraire qui se produit. Plus l'alpiniste va en montagne et plus il acquiert finalement une forme d'humilité vis-à-vis du milieu dans lequel il va essayer finalement de se faufiler et de passer dans une forme, je dirais, de connivence, de complicité, d'harmonie.
Ah, un petit passage neigeux quand même là.
Oui, bah on commence à prendre de l'altitude, on commence à monter et on retrouve notre amie la neige. Donc là on est un peu dans l'après-midi, donc elle a un peu fondu, on s'enfonce un peu.
Alors l'alpinisme et je dirais l'environnement. A priori on se dit ça va de soi. Mais il y a eu toute une évolution. Et c'est intéressant parce que vous avez apporté donc peut-être aussi un autre regard, comme beaucoup d'alpinistes. Moi, j'ai envie de revenir sur cette phrase qui est merveilleuse de Sam Ivel, qui était un conteur de la montagne incroyable, qui disait « Les hommes ont besoin de terrain vierge pour ne pas sombrer dans le désespoir. » Autrement dit, une fois qu'on a fait toutes les parois, tous les sentiers, faut inventer autre chose. Et là, c'est peut-être commencé à se gâter après, non ?
C'est vrai qu'on regarde l'histoire de l'alpinisme, effectivement, il y a eu quelque chose de très classique, c'est-à-dire qu'on avait des sommets, des endroits inconnus, et l'homme, qui par essence a toujours été attiré par l'inconnu, a cherché à aller vers ces montagnes et à les gravir.
Oh, tenez, je vois Edward Whymper, là, qui redescend des écrans.
Voilà,
bonjour, Edward
Whymper. Edward Whymper, qui fait partie des grands pionniers et de cet âge d'or de l'alpinisme les années 1860, et qui, quelque part, a tout raflé. C'était un peu le braqueur de banque de l'époque. Et quelque part, quand nous, des générations après, on arrive, finalement, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent.
Donc, il y a eu la vitesse, on va dire, avec Christophe Profil.
Alors, il y a eu d'une part la difficulté, déjà, avec les les hivernales, les grandes épopées de Maison et de Bonatti. Et effectivement, après, il y a eu ce glissement qui a été perçu du grand public, qui a été la vitesse, quoi. C'est-à-dire que les alpinistes ont transformé en quelque sorte la montagne en un stade, en faisant des chronomètres. Et puis après, finalement, après ça, quoi ? Et c'est ça qui est assez fabuleux, c'est que l'être humain retrouve toujours des capacités à réinventer les choses, à retrouver cet esprit des pionniers, d'explorateurs, qui est finalement notre ADN, notre colonne vertébrale. L'alpiniste va se recréer des nouvelles lignes, et c'est par exemple l'histoire du Tour de la France exactement, où on a la ligne frontière, que tout le monde connaît, mais que jamais personne n'avait parcourue.
Alors vous avez fait bien sûr ce Tour de France exactement, donc c'est devenu bien sûr un livre qui a très très bien marché. Justement, quand on parle de frontières, ça existe vraiment ?
Alors la frontière, c'est juste un filigrane que finalement l'homme a posé sur le territoire. C'est finalement quelque chose qui, paradoxalement, n'existe pas en montagne. Parce que quand vous êtes à une frontière en montagne, vous avez un horizon qui vous est complètement familier. Vous voyez des montagnes partout. Vous n'avez pas le sentiment de l'étranger derrière. Vous avez au contraire le sentiment d'une complicité et finalement d'une harmonie. Alors que la frontière, il ne faut pas l'oublier, porte en elle deux définitions. Celle qu'on connaît tous et qu'on voit malheureusement depuis le sommet des têtes, c'est par exemple le col du Mont-Genèvre avec cette barrière. Et puis après, vous avez l'autre définition de la frontière qui, elle, a été un peu mon leitmotiv durant le Tour de France. C'est-à-dire que la frontière, c'est aussi le trait d'union. C'est ce qu'il y a entre deux peuples, c'est ce qu'il y a entre deux territoires. Et que quelque part, le premier pas que je peux faire pour aller vers mon voisin, c'est aller vers la frontière, sur la frontière. Et à partir de là, c'est pour moi quelque chose de beau et de riche, à savoir faire l'apprentissage de la différence de l'autre.
Et alors là, vous teniez donc Lionel à nous présenter deux copains.
Et là, on est aux têtes et donc il y a les fameuses mines d'argent. Et là, on va rencontrer Sarah et Bruno qui sont juste en train de nous attendre pour visiter une mine.
Ah ben, ils sont là. Ils sont là.
Salut.
Bonjour, chère Sarah. Bonjour. Sarah Sielslar, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et Bruno Ancel.
Oui, Bruno.
Et ben alors, vous nous emmenez sur un lieu que vous aimez profondément, parce que là, on est donc au-dessus de l'Argentière. Et comme son nom l'indique, Bruno, donc l'Argentière ?
Ben, l'Argentière tire son nom des mines d'argent qui ont été exploitées depuis le Moyen-Âge.
quel rapport en fait entre ces minerais et la glaciation ?
Eh bien, les minerais, ils se sont formés dans les entrailles de la Terre, à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Pour pouvoir les trouver et les exploiter, il faut qu'ils se retrouvent près de la surface. Donc il y a à la fois le travail de tectonique, donc la formation des Alpes qui a remonté les terrains.
Donc ça c'est quoi, 40 millions d'années ?
Voilà. Et puis ensuite le travail d'érosion continuelle et surtout les glaciations qui ont donc creusé ces vallées et qui ont mis au jour les filons.
On y va. On passe une petite grille. Voilà. Alors là, on est dans la partie, on va dire, moderne, Bruno.
Oui, c'est une galerie de recherche qui a été faite donc précisément en 1904 pour tenter de retrouver des restes de filons. Et ils ont suivi, en fait, un accident géologique, on le voit bien.
Ah, très, très bien.
La partie inférieure de la galerie, là, elle est creusée dans des quartzites, donc des anciens sables marins. Et la partie supérieure, elle est creusée dans des conglomérats. Et le contact entre les deux, c'est une faille. Et c'est cette faille qui pouvait être minéralisée. Donc ils suivent ce contact en espérant trouver du minerai.
Et alors là, tel le chien truffier, nous sommes en arrêt parce qu'on voit, alors là, un filon.
La couleur du minerai de plomb argentifère, c'est une espèce de gris foncé. Et ça forme une veine qui fait ici 1 cm d'épaisseur. Mais si on la suit vers la gauche, elle s'épaissit.
Ah oui.
Là, elle fait déjà 10 cm.
Ah oui, ça y est,
Un petit peu plus loin, elle fait 20 cm. Et comme la veine, elle est inclinée, pour la suivre, ils ont été obligés de descendre.
Là, on descend.
Et ils ont fait ce qu'on appelle une descendrine, donc une galerie inclinée, qui suit la veine. Les mineurs, quand ils creusent des recherches dans la montagne, ils travaillent à l'horizontale, parce que c'est plus facile pour transporter avec les brouettes, puis après éventuellement des wagonnets. Mais une fois qu'ils sont sur le minerai, ils sont obligés de le suivre. Donc s'il est vertical, il faut s'enfoncer verticalement. Ici, il est incliné à 30 degrés, donc on a une galerie inclinée à 30 degrés.
Là, Bruno, on est toujours dans la mine, mais on est dans l'ancienne mine. Autrement dit, c'est celle du 11e siècle. Et autant celle d'avant, en fait, on prenait de l'explosif, on faisait péter les choses. Ça avançait pas vite, ça avançait à raison de 1 mètre par semaine, vous me disiez.
Au 19e siècle, oui, 1 mètre par semaine d'avancement. Au Moyen-Âge, on ne connaît pas encore les explosifs. On est obligé de recourir à une technique très ancienne, mais qui a disparu complètement aujourd'hui sur Terre. C'est la technique d'abattage par le feu.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on va mettre un brasier et on va faire fondre la roche ?
Pas fondre, on va la faire éclater.
Ouais.
En fait, on fait un énorme feu avec des belles bûches et le brasier va chauffer la roche très vite. Elle se dilate en surface, mais alors derrière, elle reste froide. Il y a des tensions qui se créent et du coup, à un moment donné, la roche, elle claque.
Ça veut dire que
ça veut dire concrètement...
On fait un mètre en combien de temps ?
Si on veut creuser une galerie, on va avancer de 10 cm par semaine.
Ah ouais.
C'est-à-dire 10 fois moins vite qu'avec l'explosif.
Et on est ressorti. Elle a du bien quand même, un peu de lumière. Elle a
ouais,
du mal,
quand
hein.
même.
Bah écoutez, on vous remercie beaucoup. Puis nous, on va continuer la balade. Hein,
oui, parce qu'on n'est quand même pas rendu encore au sommet des tapis. Il y a encore un peu de dénivelé. On va profiter du ciel bleu pour continuer à avancer et prendre un peu de hauteur.
Ah, alors là, donc, toujours en train de marcher. Alors évidemment, après cela, il y avait la phase de la métallurgie, et puis ce coin, donc, après la première mine d'argent, avec la métallurgie, il y a eu l'hydroélectricité, donc il y a eu tout ça. Donc merci à Bruno Ancel, et puis aussi quand même à Sarah Cieslard, parce que elle, on peut la retrouver dans son gîte de l'école, à Dormillouze, juste à côté, du côté de Fraissinière, et elle s'occupe aussi, donc, de cette mine.
Something good. But cutting out the heart is what you do. get the wrong vibration.
De mon amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Alors ça c'est un son que connaissent bien les alpinistes, c'est l'hélicoptère. Donc ça veut dire soit on apporte du ravitaillement à un berger, ou bien soit on sort de la montagne et on va secourir quelqu'un.
C'est tout à fait ça en fait, l'hélicoptère c'est pour moi un son qui est à la fois que je n'aime pas parce que quelque part c'est une agression dans l'espace de silence que représente la montagne, mais c'est aussi c'est un son lien, que hein. Je peux aimer puisque c'est aussi quelque part mes frères les êtres humains qui viennent porter secours quoi. Et c'est vrai que on voit dans les secouristes beaucoup d'amoureux de la montagne et on voit dans cet hélicoptère le cordon ombilical qui nous raccorde finalement au reste des hommes.
Wow, là, le pot, là.
Oula. Regarde là-bas. Il s'échappe.
Ça y est.
Tu le vois, là?
Chamois.
Pourtant, on est bas encore. Hein.
Hop, il repart. Il remonte.
C'est ça qui est toujours génial. Enfin, moi, j'adore. Je m'en lâche jamais. C'est qu'il y a ce côté, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de connexion et de complicité avec la nature. Et là, voilà... On prend conscience qu'on n'est pas forcément...
Non, mais il a giclé à 25 mètres, même pas.
Hein. Ouais. On prend conscience qu'il est juste... qu'on est chez lui, là, en fait. Et il y a toujours cette espèce d'élan du cœur, là, de joie. On voit un chamois, on voit un animal qui est libre, qui est dans son écosystème. Et puis, nous, on est juste les témoins de ça. Et voilà, je crois que ça nous a rempli notre journée,
c'est bien,
hein, Denis.
Hein. C'est bien, ça.
Comme juste à côté, là, juste derrière nous, c'est le parc national des Écrins. Et là, il n'y a aucun droit de chasse. Donc l'animal est roi et l'animal évolue en toute sérénité et toute liberté.
On est dans ce qu'on appelle la zone d'adhésion du parc des Écrins. Là.
Voilà, alors là, c'est la zone d'adhésion. C'est-à-dire qu'on est en zone...
Qui ont adhéré volontairement.
À la charte qui avait été dictée par le parc et qui promeut des relations, on va dire, plus harmonieuses de l'homme avec son environnement. Et de rappeler que ces parcs sont à la fois des sanctuaires, mais surtout, je dirais, un espace où l'être humain peut se ressourcer, parce qu'on le sait tous, on a besoin, ces moments dans nos vies trépidantes, de faire un peu le point, de savoir qu'est-ce qui est essentiel finalement pour nous. Est-ce que c'est avoir des choses ou être qui est important, quoi. Et je crois que ces zones de parc, ces zones de montagne, sont tout simplement des miroirs, et dans ces miroirs, on peut aller vers ce que j'appelle la montagne intérieure.
Ah, tenez là, on a notre lavande. Ça, c'est de la lavande en fait, c'est pas du lavandin. Hein, cette
oui, non, non, alors il faut la prendre dans les mains là, il faut en prendre une. L'écraser fortement, et puis là il faut juste se laisser remplir, parce que la montagne, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le visuel, sur le côté vu, parce qu'il y a cette notion d'espace, mais il faut pas oublier aussi qu'il y a l'odorat. On sent quand même beaucoup d'odeurs en montagne, les fleurs, le mélèze, les résineux, etc. Il y a aussi l'ouïe, on se remplit paradoxalement du silence, on se remplit aussi du vent, on se remplit de la neige qui vole. Et puis, il y a aussi, après, le goût exacerbé, après l'effort, goûter, par exemple, un bon casse-croûte et puis le savourer avec un autre goût que celui qu'on connaît habituellement en bas, quoi.
En tout cas, si le chamois nous a pourvus, les oiseaux nous ont repérés. Et allons-y, chip, chip, chip. Bon, là, on est entre pierres, un poil de neige et du bois mort. Que vous entendez chanter.
Oui, parce qu'on est un peu dans l'hiver, donc les sentiers n'ont pas été encore forcément entretenus. Et au printemps, en fait, bien souvent, les gens des communes vont faire une corvée. Et c'est pas du tout une corvée qui consiste à nettoyer des sentiers de la commune.
Non, mais c'est le mot, c'est le mot qu'on employait même au Moyen-Âge.
Et qui, pour moi, fait partie de ces liens sociaux qui m'unissent aux autres villageois.
Ah tenez là, ce qu'on appelle on arrive sur un
sur un ruisseau, mais qui n'est pas naturel parce qu'il a été creusé par l'homme, ce qu'on appelle des béales, aussi ici, comme dans les Cévennes, et qui servent à irriguer. Alors ça aussi, je sais que vous les remettez en état.
Oui, alors ça fait aussi partie d'une deuxième corvée qu'on appelle la corvée des canaux, et qui, pour moi aussi, est un moment vraiment sympathique, parce que voilà, on est tous sans faire de chichi, avec nos bottes, nos pelles, un peu curer les canaux, et puis à l'issue de ça, ben voilà, de nouveau partager un bon repas, parce que voilà, pendant des années et des siècles, les canaux ont servi à l'agriculture de montagne, qui était une agriculture très dure, très pauvre, avec
de l'agriculture en terrasse,
voilà, avec un pays visage aussi qui a été modelé par l'être humain, mais qui l'a modelé pour moi d'une très belle façon. C'est-à-dire que on peut observer d'ailleurs au travers des bois, là on le voit parfois, là ces petites murettes là, et puis dessus, voilà, ces espèces de restanques de terrasses qui avaient été aménagées pour cultiver. Alors c'était des cultures très pauvres, hein, beaucoup de céréales comme le seigle, mais en même temps voilà, tout ça a disparu au fil de la mécanisation de l'agriculture, mais les canaux d'irrigation ont subsisté et maintenant sont utilisés pour l'agrément dans les jardins, pour pouvoir arroser les potagers de tout un chacun.
Le dernier coup de rein. Waouh ! Alors là on n'est pas déçu. Vous n'avez pas l'image, mais on va quand même vous la mettre sur le site de CO2. Et là, incroyable. On est à quelle altitude déjà ?
Alors, on est à un peu plus de 2000 mètres. On doit être à 2065 mètres de mémoire.
Un sacré panorama, parce que d'un côté, donc vous avez la Durance. Vous avez au loin, on va dire, la place forte de Mont-Dauphin, qui était chère à Vauban. Le Briançonnais. On se retourne, vous avez l'Italie avec le col du Mont-Genèvre. La frontière. On voit pas la barre des écrins, hein, là.
On voit pas la barre des écrins qui est le point culminant des écrins à 4102 mètres, mais on voit un peu ses acolytes, ses frères et sœurs, le Pellevoux, voilà. Le pic sans nom, les ailes froides et justement la langue du glacier blanc qui descend à droite du Pellevoux.
Ça nous permet quand même de parler du réchauffement climatique parce que celui-là, il en a pris un coup sur la casquette.
Oui, alors c'est vrai que en tant qu'alpiniste, on est un peu malheureusement aux premières loges de ce réchauffement climatique, mais c'est vrai que l'alpiniste, c'est un peu la sentinelle, c'est un peu la vigie, quoi. Il voit ces glaciers qui fondent et ces glaciers qui perdent des dizaines de mètres chaque été. Et c'est vrai que actuellement, ces montagnes qui semblaient un peu statufiées, qui semblaient là pour des millions et des millions d'années, on se rend compte que elles se font aussi grignoter, attaquer. D'une manière très frontale et pour moi très agressive, parce que je peux pas m'empêcher de me dire en voyant ça que quelque part j'emporte ma part de responsabilité.
Alors c'est le paradoxe, c'est-à-dire que ces montagnes qui sont des montagnes jeunes continuent à monter de l'ordre de 1-2 mm peut-être par an, et en même temps ça fesse parce que elles s'érodent et puis il y a des pans de montagne qui tombent, quoi.
Et malheureusement, j'ai le sens qu'à l'heure actuelle, on va plus aller vers le sens de l'effondrement que de la montée. Oh. Je me trompe, Denis.
Voilà. Mais en même temps, il faut le prendre, voyez, comme ça, avec quand même une joie de vivre malgré tout, parce qu'on est des êtres humains. Et que c'est notre boulot aussi d'être humain.
Oui, puis je crois que l'alpiniste, c'est quelqu'un qui affronte des difficultés. C'est quelqu'un qui est capable d'essayer de trouver un peu des solutions à des parois qui semblent impossibles. C'est finalement le rôle de l'être humain à l'heure actuelle, ça va être de retrouver l'équilibre de l'alpiniste.
Lionel, votre dernier ouvrage, THT, signifie très haute tension, donc édité chez Stock. Et là, on est au cœur de l'affaire. On va dire qu'on voit une ligne à haute tension. En fait, il y en a deux. Ce sont deux lignes de 225 000 volts, une qui part de Serponçon donc pour passer jusqu'ici et peut-être même jusqu'en Italie. Et puis une autre qui va partir de Gap, qui va arriver donc sur Embrun et qui là donc provient donc de l'électricité nucléaire. Mais là, vous êtes quand même parti, vous êtes pris fait et cause, on va dire, un peu contre cette ligne parce que
Vous la trouvez surdimensionnée. En même temps, il fallait la refaire. Hein. L'ancienne, elle était de 1938.
Alors, l'ancienne, c'était le réseau électrique qu'il fallait refaire. C'était pas implanter ex nihilo deux lignes à très haute tension. Et pour moi, l'arrivée de ces lignes à très haute tension dans la Haute-Durance, finalement, ça a été une agression phénoménale, un peu comme prendre un coup de poignard. La belle formule de Herri de Lucas, c'était de dire un viol de territoire. Et je crois que le mot n'est pas trop fort, parce que on s'est rendu compte, finalement, que ces lignes à très haute tension allait amener une énergie fabuleuse dont finalement n'avaient pas besoin les hauts alpins. Qu'est-ce qui est important dans les Hautes-Alpes finalement, c'est le paysage. On le voit ici, c'est absolument merveilleux. On pourrait se nourrir les yeux pendant des heures.
Parce qu'il y a quasiment plus d'industrie.
Il y a quasiment plus d'industrie. Par contre, les THT arrivent là comme une vilaine balafre et quelque part sont vraiment à l'opposé de tout ce qu'on peut entendre ou de tout ce qu'on peut savoir sur la transition écologique et la transition énergétique plus particulièrement. Donc en fait, on se rend compte en plus qu'on est dans des territoires du Briançonnais qui sont aussi des territoires à énergie positive. On aurait pu être le premier département est autonome en énergie verte, ce qui aurait été assez beau aussi pour l'image de marque des Hautes-Alpes. Et là, en fait, on se rend compte qu'avec ces lignes à très haute tension, dans un déni de démocratie, puisque l'enquête publique avait dit 98% de la population avait argumenté contre, et finalement, rien n'a été entendu, quoi. Donc le projet s'est fait, RTE a installé ses pylônes d'une manière un peu abrupte.
Alors, on aurait peut-être pu quand même l'enterrer, ça, parce qu'il y a des endroits où on peut enterrer. Alors, je sais que ça coûte cher.
Mais... Bien sûr, ça a été une des solutions qui a été proposée mais qui n'a pas du tout été étudiée par RTE.
Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va, alors ça, on pourrait peut-être vous dire, c'est une question de prix, mais pas que, parce que derrière, RTE en fait affirme que jamais on ira vendre de l'électricité en Italie, mais en fait, en gardant ce secteur aérien. Ça permettrait de le faire.
Ça permettrait de le faire, tout à fait. Et ce qui est amusant et un peu ubuesque à l'heure actuelle, c'est que les travaux ont été arrêtés suite justement à une décision du tribunal administratif de Gap qui stipulait que le préfet, finalement, n'avait pas demandé à RTE de faire toutes les études alternatives qui auraient peut-être permis de moins impacter le milieu. On se rend compte qu'on aurait pu très bien enterrer des lignes. RTE est un des leaders mondiaux en matière d'enfouissement. Et puis quand on parle du coût de l'enfouissement, certes il est plus cher, mais est-ce que sur le long terme finalement on s'y retrouve pas à un moment donné, parce qu'il faut pas oublier qu'une ligne en haute montagne demande aussi beaucoup d'entretien, on est aussi beaucoup plus sujet aux aléas climatiques, en tout cas l'enfouissement aurait été une solution qui aurait été applaudie par toute la vallée, c'est certain.
Alors si je vous dis que quand même il va y avoir à terme un bénéfice de 100 km de lignes en moins entre les nouvelles qui vont donc être construites et puis les anciennes lignes que l'on va retirer, alors ça va passer sur des zones de biodiversité et de nature et moins sur des zones habitées.
Alors en fait, les lignes à très haute tension passent justement assez haut au-dessus des habitations, mais justement sont vraiment des atteintes phénoménales au paysage. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une ligne à très haute tension, c'est pas le petit pylône de 10-20 mètres qui existe. Non, c'est des pylônes qui font entre 30 et 40 mètres, qui sont vraiment extrêmement agressifs pour le paysage. Et puis ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que la très haute tension amène aussi des problématiques sanitaires qu'on connaît mal. Il y a une étude anglaise qui s'appelle l'étude Rapper, qui a quand même montré que les populations d'enfants qui vivaient à proximité des lignes étaient quand même multipliaient les risques de leucémie. Et ça, c'est des faits scientifiques. Or là, vous avez quand même une ligne à très haute tension qui va arriver à l'Argentière-l'ABC, à 300 mètres d'un collège et à 150 mètres d'une crèche.
Waouh ! Ça y est, on a posé les fesses. On n'a pas envie de bouger. Hein. Et pourtant, sais si vous ne tenez pas en place, vous, pour, dès que vous voyez une falaise, vous la montez. Alors, on a quand même toute cette belle énergie. On veut vraiment la partager avec vous hein, cet après-midi grâce à ce bleu 05 hein, qui est le ciel de ces Hautes-Alpes, de ce pays des écrins donc, qui nous accueille.
Voilà, c'est un coin de paradis. Là, on est dans une sérénité.
Paradis froid, d'ailleurs.
Oui, paradis froid, mais en fait, avec du soleil quand même.
Ouais.
Donc, effectivement, il y a ce côté enfin, qui m'interpelle toujours à la fois de paradisiaque, parce que je suis fondamentalement bien ici. Mais effectivement, que de se dire aussi ce paradis, bah, il reçoit des coups de couteau, des agressions. On parlait de la ligne à trop de tension. Et puis, on a aussi ce réchauffement climatique qui surgit là et qui vient quelque part toquer à ma m'apporte et quelque part me rappeler aussi que bah, l'alpiniste il fait partie du monde des hommes et que le monde des hommes bah, il est juste en bas et quelque part il y a besoin de cet échange aussi afin de trouver d'autres liens et de me dire que peut-être les Hautes-Alpes pourraient être le laboratoire d'autres possibles, d'explorer d'autres façons de vivre, d'explorer d'autres façons finalement d'entrouvrir la porte d'un monde nouveau dans laquelle il va falloir qu'on s'engouffre. Et quelque part, j'ai le sentiment que dans les Hautes-Alpes, il y a une petite porte qui s'entrebâille, il y a un rayon de soleil qui sort, et de ce rayon de soleil, voilà, il y a tous les éléments, tous les ingrédients pour aller vers le nouveau monde.
Ah ben, d'accord, avec les chaussures que vous avez, que nous avons, il faut mettre le pied dans la porte, là, et puis ouvrir un peu plus.
Alors, il va falloir donner un grand coup, parce que ça ne va pas se faire comme ça, et qu'il y aura besoin d'un peu de radicalité dans l'histoire, certains puissants, certains pouvoirs s'accrochent un peu trop fort à leur poste et oublient que la planète est un monde fini, un monde merveilleux et que si on fait disparaître ce lien qui nous unit à la nature, quelque part, c'est notre condamnation à long terme.
Et accepter la nature autrement que sous une forme maîtrisée, parce que l'être humain, il a toujours été comme ça.
Oui, alors l'alpiniste, il est un peu le contre-pied de ça, parce que l'alpiniste, c'est quelqu'un qui toujours cherche l'inconnu, qui accepte l'inconnu, et plus encore, qui l'aime. Donc à partir de là, qui accepte de ne pas tout maîtriser, et qui quelque part a une forme de confiance. Il y a une forme d'abandon. À un moment donné, je suis capable, dans des ascensions très dures, de lâcher prise. Et je crois que c'est ça, à l'heure actuelle, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on lâche prise, c'est-à-dire qu'on a quelque chose dans notre main qui ne nous satisfait pas, et puis on voudrait avoir quelque chose d'autre, mais simplement pour savoir ce qu'il y a dans l'autre main, il faut d'abord accepter de lâcher ce qu'on a dans la main.
J'adore entendre parler un alpiniste qui dit « lâcher prise », alors que vous n'avez pas intérêt à lâcher.
Alors c'est le côté paradoxal et le côté contradictoire dont on est tous pétris, n'est-ce pas ?
On a compris de toute façon ce que vous disiez. Et alors ce qu'on entend aussi, c'est qu'il serait peut-être bon quand même d'arrêter de vivre à crédit sur la bête, quoi. Parce que c'est ça. Hein.
Complètement. Et je reviens à l'alpiniste parce que c'est un peu ma colonne vertébrale. L'alpiniste, c'est quelqu'un qui apprend à vivre dans l'extrême rusticité, dans l'extrême simplicité, quand on dort pendant des jours et des jours pendu dans un harnais à une paroi sur une petite plateforme, on resitue la valeur des choses. Parfois, on est même obligé de monter l'eau dans la paroi. Donc, on sait la valeur de l'eau, on sait la valeur des choses. Et à l'heure actuelle, il faut redonner de la valeur aux choses parce qu'on l'a perdu, cette valeur. C'est trop facile de tourner un robinet et d'avoir de l'eau courante. Mais quand on sait la préciosité de l'eau, eh bien, peut-être qu'on ne laisserait pas tourner un robinet, de même qu'on ne laisserait pas cracher l'énergie électrique à tout craint, parce que on sait aussi que l'énergie a deux prix finalement. Il y a celui qu'on paye dans sa facture, et puis il y a aussi celui qu'on laisse à la planète chaque jour, et qui quelque part, à un moment donné, cette facture-là, elle va nous être présentée.
Bon, cher Lionel, grand merci pour cette balade chez vous, au pays des écrins. Est-ce qu'on peut vous souhaiter de jolies,
de belles ascensions et puis surtout pour moi en tant qu'être humain sur la planète, je dirais tout simplement d'aller vers un nouveau monde et de tourner la porte de l'ancien monde.
C'est pas mal hein, quand même l'altitude d'avoir comme ça des neurones oxygénés, donc avec cet homme Lionel Daudet. Et je pense que même si on ne s'intéresse pas forcément à l'alpinisme, il y a quand même pas mal de phrases et de messages tout à fait intéressants avec cet homme donc, qui a écrit THT, donc avec cette ligne à très haute tension, avec un débat local. Hein, on comprend très bien aussi, on dit on va apporter le progrès, etc. Oui, mais si vous êtes du côté de Réallonge, si vous connaissez, il y a quand même de sacrés balafres dans ce coin-là. Voilà. C'était donc la semaine dernière, donc avec ce Lionel Daudet dans ce département des Hautes-Alpes et particulièrement donc dans ce pays des écrins. Donc merci à lui. Vous avez donc cette mine de l'Argentière que vous pouvez visiter donc avec Sarah et aussi Bruno Ancel. Et puis la semaine prochaine, ça va être une chose, mais qui va être alors totalement différente. Je vous en dis un mot dans quelques instants. Oh, quoi ? Un gars du Cantal, là, on dirait. Oui. Allez, moi, Jean-Louis, on y va. Là, il y a des vaches d'un côté, des chevaux de l'autre, et puis lui avec sa guitare. Normal. Au fil de l'eau.
Ah bah c'était autant en faire quelque chose, donc signé Jean-Louis Murat. Oh bah je vais pas me tromper, bah non, on va remercier Fabrice Desmas à la technique et Vincent Godard qui a mixé notre reportage au pays des écrins. Je n'oublie pas Jérôme Boulet qui a assuré toute cette préparation et c'est lui qui a colorisé ce reportage. Hélène Biziot, Camille Blanès et Marion Philly. Programmation musicale Thierry Dupin. Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Alors, rediffusion entre 5h et 6h. Vous n'oubliez pas, vous avez le podcast Chez Sous et là vous aurez CHEI2SOUX. Mettez un X parce que j'ai un frère, donc c'est le pluriel. Et à partir de là, bah, vous aurez aussi les introductions, le texte, vous allez avoir aussi une vidéo par rapport à la THT avec Lionel Daudet, donc il y a pas mal d'éléments donc sur ce Twitter. Semaine prochaine, là on va changer complètement mais quand même dans une même philosophie, on va aller à Saint-Denis, dans une zone sensible, mais sensible au sens premier du terme, on va parler de maraîchage avec Olivier Darnay, un garçon qui a à la fois un discours mais surtout qui est vraiment en acte, où il marie culture, nourriture et le côté artistique, donc nous serons à Saint-Denis avec lui.